Alors aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 10, chant 4. Le demi-jour rêveur du réel terrestre. Alors je commence par décrire ce que Satprem, dans sa traduction en français, a écrit concernant la Kundalini. Parce que c'est quelque chose qui correspond à ce que je vais vous lire. Dans la tradition indienne, chaque centre de conscience est représenté par un lotus avec un nombre de pétales différents et des couleurs différentes. Cet antre se situe à la base de la colonne vertébrale et ce serpent, appelé Kundalini, lorsqu'il se réveille, relie toutes les énergies de la matière à la force suprême, au sommet du crâne, où il s'épanouit en 1000 pétales, qui vont dans toutes les directions et ouvrent toutes les portes de la matière terrestre, depuis la moindre cellule, ou le brin d'herbe qui se joigne à l'un suprême en tout et partout. Ce qui semblait être le sommet de l'expérience individuelle humaine allait être pour Savitri, c'est-à-dire pour Mère et Sri Aurobindo, le début de l'expérience terrestre pour la Terre. Avec la mise à nu d'autres centres de conscience plus bas, dans les jambes, les genoux et surtout sous les pieds, des centres terrestres qui plongent dans le passé et l'avenir de la Terre et servent de conduit ou de tuyau à la présence active du Suprême dans la gangue terrestre jamais fouillée. Le subconscient des milliards humains et surtout l'inconscient, le roc de fond, qui est en train d'être bouleversé partout pour faire craquer et sortir la grande énigme miraculeuse de la vie divine. Les buts, le but des âges malheureux et le grand jour sur une terre nouvelle dans un air nouveau. La transformation des corps mortels en un être nouveau. C'est cet espoir qui est en train de faire trembler la croûte de la Terre et tout le vieux système international, mondial, bâti par les humanoïdes pensants. Alors, je commence la lecture de Savitri. Et Savitri a regardé la mort et ne répondit pas. Presque. Il semblait que dans cette forme symbolique, l'obscurité du monde avait consenti à la lumière des cieux. Et Dieu n'avait plus besoin de l'écran de l'inconscient. Une puissante transformation est venue sur Savitri. Un halo de la déité qui habite au-dedans, la gloire de l'immortel, qui avait allumé sa face et abrité sa radiance dans la maison de son corps, en débordant, changer l'air même en une mer lumineuse. Dans un moment d'apocalypse de feu, l'incarnation retirait son voile, une petite personne dans l'infinitude, pourtant debout, et qui semblait la maison même de l'Éternel, comme si le centre du monde était son âme même, et tout le vaste espace était seulement sa robe autour. Telle une courbe de la calme hauteur des cieux lointains, descendant dans l'humilité de la terre, l'arche de son front couvrait la voûte du regard de l'omniscient. Ses yeux étaient deux étoiles qui observaient l'univers. Le pouvoir qui régnait sur Savitri, du sommet de son être, la présence qui habitait dans le secret du lotus est descendue et pressée sur son front le centre. Où le seigneur du mental siège dans sa tour de contrôle. trônant là, sur le lieu naturel de la concentration. Il ouvre dans l'homme ce troisième œil mystérieux, l'œil de l'invisible qui voit l'au-delà. Quand la lumière emplit son cerveau d'une extase d'or et la sagesse de l'éternel conduit son choix et la volonté éternelle s'empare de la volonté du mortel. Elle animait le lotus de sa gorge chantante et dans sa parole palpitait le verbe immortel. Sa vie résonnait au rythme de l'âme du monde. Se mouvant en harmonie avec la pensée cosmique. Comme se glisse le soleil de Dieu dans la crypte mystique, où sa lumière se cache aux dieux qui le poursuivent. Il se glissait dans le lotus du cœur de Savitri, et là, réveillait la force qui change le destin. Puis, il se déversait dans une profondeur du lotus ombilical, logé dans l'étroite maison de la nature de la vie, faisait pousser la fleur du ravissement des cieux dans les aspirations du corps et changeait le désir en une pure flamme céleste. Finalement, il envahissait l'antre où dort lovée l'énergie du monde et frappée sur la force du serpent aux mille capuchons qui, enflammé, s'est dressé haut, enlaçant le moi du monde au-dessus, reliant la stupeur muette de la matière au calme de l'esprit. Et remplissant les actes de la terre du silencieux pouvoir de l'esprit. Ainsi changé, Savitri attendait que le mot parle. L'éternité regardait dans les yeux de la mort, et les ténèbres ont vu la réalité vivante de Dieu. Alors, une voix se fit entendre qui semblait le moi de l'immuable, où la calme émanation à mi-voix de l'infinité, quand elle parle au silence dans le cœur du sommeil. Je te salue, puissante et victorieuse mort, toi, grandiose ténèbre de l'infini, ô vide qui laisse le champ libre pour que tout soit, faim qui ronge l'univers, dévorant l'effroi restant du soleil et mange le monde entier avec tes mâchoires de feu, dévastateur de l'énergie qui a fait les étoiles, inconscience porteuse des semences de la pensée, naissance où dort ensevelie la toute connaissance qui lentement émerge de cette poitrine creuse, portant le masque de la brillante ignorance du mental. Tu es mon ombre et mon instrument. Je t'ai donné la terrible forme d'épouvante et ton glaive tranchant de terreur et de chagrin et de douleur pour forcer l'âme de l'homme à lutter pour ta lumière dans la brièveté de ses jours semi-inconscients. Tu es l'aiguillon de la grandeur de tes œuvres, le fouet de son aspiration à la félicité éternelle. son poignant besoin d'immortalité. Vis, ô mort, quelque temps, sois encore mon instrument. Un jour, l'homme aussi connaîtra ton cœur insondable, de silence et la paix songeuse de la nuit, et la sévère obéissance à la loi éternelle, et la calme pitié inexorable de ton regard. Mais maintenant, ô immémoriale puissance, écarte-toi et quitte le chemin de ma force incarnée. Délivre ton mât de ton masque noir, le Dieu rayonnant. Lâche l'âme du monde nommée Satyavan. Libre de tes griffes de douleur et d'ignorance, pour qu'il puisse se poser en maître de la vie et du destin. Représentant de l'homme dans la maison de Dieu, compagnon de la sagesse, époux de la lumière, l'éternel marié à son éternelle épouse. La voix a parlé. La mort sceptique résistait encore. Elle savait mais refusait encore de savoir. Elle voyait mais refusait encore de voir. Inébranlable, elle restait à calmer son droit. Son esprit s'inclinait, sa volonté obéissait à la loi. De sa propre nature, fatale même pour les dieux. Savitri et l'autre s'affrontaient face à face. L'autre dominait comme une énorme forteresse d'obscurité. Autour de la mort, la vie de Savitri grandissait tel l'assaut de l'océan. Pendant un temps, l'ombre survivait défiant les cieux, assaillie en face, oppressée d'en haut, telle une solide masse de pouvoir conscient. L'ombre supportait la tyrannie du désir divin, la pression intolérable d'une force pesait sur sa tête sans l'abaisser, ni sa poitrine obstinée. La lumière, comme une langue brûlante, lapait ses pensées. La lumière était une torture lumineuse dans son cœur. La lumière fulminée par ses nerfs, comme une agonie splendide. Son obscurité grondait en mourant dans cette flambée. Le verbe qui maîtrise condamnait chaque membre et ne laissait nulle place pour l'énorme volonté ténébreuse qui semblait expulser dans quelques espaces impuissants et ne pouvait plus réentrer mais le laisser vide. Il invoquait la nuit, mais elle retombait en frémissant. Il invoquait l'enfer, mais il se retirait morose. Il recourait au soutien de l'inconscient d'où il est né, son vaste moi nourricier. L'inconscient l'a tiré derrière vers une vacuité sans borne, comme si lui-même était avalé par lui-même. Il invoquait sa force, mais elle refusait son appel. Son corps était mangé par la lumière, son esprit dévoré. Finalement, il savait l'inévitable défaite et il l'a laissé crouler la forme qu'il avait portée. abandonnant l'espoir de faire sa proie de l'âme de l'homme et de forcer l'esprit immortel à être mortel. Il s'est enfui au loin pour échapper à ce redoutable toucher et il a pris refuge dans la nuit en retraite. Dans le crépuscule rêveur de ce monde symbolique, l'ombre désastreuse universelle a disparu. S'évanouissant dans le vide d'où elle est venue, comme dépossédée de sa cause originelle, le royaume crépusculaire avait passé, effacé de leurs armes, et Satyavan et Savitri étaient seuls. Mais ni l'un ni l'autre ne bougèrent. Entre ces deux visages se dressait un invincible mur muet, translucide. Dans la longue halte de ce moment béant, rien ne pouvait bouger. Tous attendaient l'inscrutable volonté de l'inconnu. Alors c'est la fin du chant 4, livre 10, Sri Aurobindo. I deposit this at the feet of Sri Aurobindo and the mother. Tajam 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 taj